Donc on a dit, on est dans notre quatrième cours sur le chapitre 19. Le thème qui revient depuis le début, c'est la Neshama. Qu'est-ce que c'est la Neshama ? On a expliqué que la Neshama est comparée par le roi Salomon à une boule. Le corps en général, et la Neshama est comparée à une bougie. C'est écrit Ner Hashem Mishpat Adam. Ça, on l'a expliqué. Dans une bougie, on a expliqué, il y a la flamme. Hein, Marcel, qu'est-ce qu'il y a dans une bougie ? Il y a la flamme.
La flamme, le combustible.
D'accord. Et la mèche. Très bien. Alors, c'est qui maintenant la flamme dans le corps ? C'est la Neshama. La flamme veut tout le temps monter chez Akadosh Baruch Hu. Quitte même à ne plus rien servir à cause de ça. C'est qui retient la Neshama ici bas sur Terre ? C'est le corps. Le combustible, c'est qui ? Mais physiquement, spirituellement, c'est qui ? C'est le corps. Le corps qui retient la Neshama. Maintenant, qu'est-ce qu'on a expliqué ? Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière ? On a expliqué que des fois, lorsqu'une personne sombre dans les plaisirs de ce monde-ci, on a parlé longuement de ça la semaine dernière, alors, des fois, les plaisirs peuvent paraître tellement grands et tellement puissants que tu dis, mais mon Dieu, comment je vais m'en sortir ? C'est impossible, je ne vais jamais m'en sortir. C'est là qu'on a terminé le cours la semaine dernière. 254. Et c'est là qu'on a terminé le cours la semaine dernière avec une image qu'on va développer aujourd'hui. On a dit que finalement le Yetzara peut être comparé à la cire.
À la quoi ?
La cire.
La cire ?
Oui. Parce qu'il y a un verset.
La cire de
la bougie. Oui, la cire. Il y a un verset qui dit que les Réchaïm, les mécréants, vont fondre comme la cire va fondre. Pourquoi on a pris l'exemple de la cire ? Parce que qu'est-ce qu'on a de particulier dans la cire ? La cire, quand tu la touches, tu as l'impression que c'est dur.
C'est chaud et c'est dur. Hein.
D'accord ? Et des fois, quand tu as beaucoup de cire, selon les qualités de cire, tu peux avoir des cires, tu as l'impression que c'est très très dur. C'est de la caillasse. Mais quand tu l'as fait chauffer, tu l'as fait fondre, qu'est-ce qui se passe ?
Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien. D'abord, elle se ramollit.
Elle disparaît.
Et après, elle disparaît, c'est fini, reste pour rien. Merci. Alors, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose quand on parle du Yetzer Hara, quand on parle des forces du mal, quand on parle de ce qui ne nous laisse pas avancer dans la Torah, ce qui ne nous laisse pas avancer vers un Kadosh Baruch Hu. Qu'il faut savoir que même si, bonsoir, même si à un moment donné on se sent que notre Yetzer Hara a pris le contrôle de notre corps, il faut savoir que notre Yetzer Hara c'est comme de la cire. Donc ça c'est le dernier point sur lequel on est comparé à la bougie, c'est que le Yetzer Hara c'est comme de la cire. Exactement comme le combustible. C'est de la cire, ça veut dire que la cire tu la chauffes un peu, c'est fini, elle s'en va. Ok ? Donc on va dire dans les mots maintenant. Alors on est en haut de la page. Kedirtiv, Kol Agoyim Kayin Negdo. Maintenant, on va comprendre, vous savez, il y a plusieurs versets qu'on retrouve dans Isaïe, par exemple, que j'attends les questions de M. Benita dessus, parce que si on les prend au premier degré, il n'est pas encore avec nous, M. Benita, là. Si on prend ces versets au premier degré, on peut nous traiter de gens qui sont hautains et de gens qui écrasent l'égoïme. Mais c'est pour ça que je précise d'abord, on va lire les versets, on va expliquer quel est le sens profond de ces versets-là. Je vais expliquer tout de suite, dans les mots. En haut de la page 254. Kedirtiv, premier verset, on dit que c'est écrit Kol Agoyim Kayin Negdo. Tous les goyim, comme ça c'est écrit, Kayin Negdo sont comparés au néant devant Dieu. D'accord ? Premier verset. Deuxième verset. Uktiv, c'est écrit Kine Oyvecha Hashem, car Dieu tes ennemis, Kine Oyvecha Yovedu, car Dieu, d'accord, tes ennemis vont périr. It pardou kolpo aleaven, d'accord, le verset I, on le dit dans le psaume de Mizmorchir le Yama Shabbat. It pardou exvegomer kolpo aleaven, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit que les forces du mal vont se décomposer. Deuxième verset. Troisième verset, je vais expliquer tout de suite. Oktif, c'est écrit toujours dans Tehilim. Kehimes donag mipene esh, comme la cire fond devant le feu. Esh, c'est le feu. De la même manière, Yovdou, de la même manière, les Réchaïm vont comme ça se terminer, vont se détériorer et vont se décomposer devant un Kadosh Baruch Hu. Et enfin, dernier verset, Uktiv c'est écrit, Harim Kadonak Namazou. Ça c'est dans le psaume qu'on lit le vendredi soir, que des montagnes vont fondre Kadonak comme de la cire. Quel est le point commun qu'il y a dans ces quatre versets que je viens de citer? Un verset dans Isaïe et trois versets du Tehilim.
Tout fond et...
C'est qu'à chaque fois, on parle de choses qui ont l'air énormes. Les nations, d'accord, les ennemis de Dieu. Vous imaginez le cran qu'il faut pour être un ennemi de Dieu? Pour être quelqu'un que la Torah lui donne le label, tu es un ennemi de Dieu. Ça veut dire que c'est des grosses pointures. C'est les ennemis de Dieu. Et à chaque fois, on parle de grosses pointures. Des nations qui sont contre Dieu, d'accord? On parle d'ennemis de Dieu, on parle de montagnes. Et qu'est-ce qu'on te dit à chaque fois? On te dit que tu crois que c'est des montagnes, tu crois que c'est les ennemis, mais quand Dieu a décidé, c'est fini, il reste plus rien du tout. Qu'est-ce que nous apprend ce verset? En vérité, nous quand on lit ce verset, on s'imagine, ouais, on parle ici d'Ahmadinejad. C'est vrai, nous quand on lit ce verset-là, on dit, bon, il parle d'Ahmadinejad ici, que tu peux avoir l'impression que les ennemis comme ça, ils sont très grands, mais bon, Bezrat Hashem, Dieu va nous montrer comment en vérité, ils sont tout petits, ils vont se casser la figure. En vérité, Romain, ce que tu veux. En vérité, ce que dit ici l'Admor HaZaken, il te dit, pas besoin d'aller chercher si loin pour trouver l'ennemi. L'ennemi, il est dedans. Il est là. Pas aussi fort que Lot, d'accord, j'ai pas envie d'utiliser son nom pour pas lui donner de la force. Mais l'idée que Yeshaya a dit, l'idée que le prophète Isaïe a dit, l'idée que David Amel parle dans Tehilim, quand il dit que le mal doit fondre comme de la cire, et même si une montagne ça va fondre, il parle pas seulement des forces du mal. Il parle du mal qu'il y a dans chacun de nous. Et il veut t'expliquer que des fois tu crois que ton Yetzara c'est comme une montagne. Et tu dis, oui, t'arrêtes pas de me parler de la Neshama, elle est très puissante, la flamme, etc. Tu dis, mais tu sais où je suis, moi? Tu sais à combien d'années-lumière je suis de ce que tu me racontes, moi? Ça me parle pas de ce que tu me racontes, je suis pas dedans. Et c'est pour ça que la Admor HaZaken, c'est très important à la fin de cette série de chapitres 18 et 19 dans laquelle on a parlé de la Neshama, qui te dit, sache que ce qu'on a expliqué par rapport à la Neshama, c'est applicable à tout le monde. Tout le monde, tout juif est concerné par ça. Tout le monde est concerné par ça. Il a une Neshama, et même s'il croit qu'il a un grand Yetzirah et que son Yetzirah c'est comme une montagne, il doit savoir que quand il met la puissance divine, son Yetzara, il fond kadonag comme de la cire. Vous avez remarqué, on n'a pas pris l'exemple de la neige, on a pris l'exemple de la cire. Et c'est volontaire. Parce que comme j'ai dit, parce que la neige, même quand elle est dure, tu vois que c'est liquide. La cire, quand elle est dure, elle n'est pas liquide du tout. Et tu te poses la question, est-ce qu'un jour tu vas pouvoir la casser? Vous savez comment ça peut être dur, une caillasse de cire? Ça peut être très très solide. Prenez un gros morceau de cire comme ça peut être très très dur. Ça se casse pas comme ça. Même avec un couteau, on a du mal. D'accord. Bien sûr.
D'ailleurs, le reste de la bougie.
Vous savez comment c'est solide la cire?
Du bougeoir, c'est une galère.
Ça peut tenir des millénaires la cire. Ça tient des millénaires. C'est pour ça qu'il prend cet exemple-là. Parce que la cire, ça peut être aussi dur que la pierre. On sait ça. Vous savez, j'ai vu une fois un commentaire justement qui parlait de ça. Vous savez, parce que dans la halakha, il y a une différence avec un couteau. Quand on le plante, est-ce que c'est quelque chose de dur ou pas? Parce que par rapport à ça, ça nettoie le couteau, etc. Je rentre pas dans les détails. Et la cire, c'est considéré comme un support qui est dur. Parce que c'est un support qui est dur. La cire, c'est quelque chose qui est aussi puissant que la terre, aussi puissant que... C'est très solide. Et qu'est-ce qu'on te dit? C'est compact, exactement. Voilà, c'est compact. Et qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'il te dit ici, David Ameler? David Ameler, il te dit que toute la montagne que tu vois devant toi, Kadonag Namasu, elle fond comme de la neige. Maintenant, vous aurez une kavana. Quand vendredi soir, vous allez dire, Harim Kadonag Namasu, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Maintenant, c'est un verset qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il dit, Harim, des montagnes. Des choses qui te paraissent des montagnes insurmontables, Kadonag Namasu l'Ifne Hashem. Ils fondent comme de la cire l'Ifne Hashem devant un Kadosh Baruch Hu. Voilà le psaume qu'on lit vendredi soir. D'accord? Et ça, c'est très important de le rappeler ici. Donc, pourquoi il explique ça ici? Pour nous montrer que chacun de nous a une force en lui de faire tomber des montagnes, de déraciner des montagnes. Exactement ça, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Hine. Alors j'accélère un peu à la fin du chapitre 19. Ça veut dire quoi,
hein? Plutôt des nations qui nous ont dominés que nous on a dominé.
Alors encore une fois, on n'a pas donné de temps, on n'a pas dit quand ça va se passer. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai précisé que le fait que le roi David va labelliser, si on peut dire, certaines personnes les ennemis de Dieu qui sont contre Dieu, ça veut dire que pendant un certain temps ils sont les ennemis de Dieu. On ne peut pas leur enlever ça. Donc ça veut dire qu'ils ont une puissance. Et quand le roi David te parle de montagne, c'est que ça me paraît une montagne. Et que c'est vraiment des montagnes.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas donné le temps, mais c'est vrai aussi que l'histoire nous enseigne, depuis le temps des temps,
voilà.
Le Ham Israël, on ne peut pas dire...
Il était gâté.
Ah oui, mais il est toujours là concrètement.
C'est le seul à être là.
Les autres aussi sont là.
Ah non, ils ne sont pas là.
Non, pas du tout. Les Grecs sont là.
Alors je vais vous dire quelque chose. Les Français que vous avez aujourd'hui en France n'ont rien à voir avec les Gaulois.
D'accord, moi j'ai rien à voir avec
Moshé Rabbeinu. Ah bah si, évidemment, vous descendez de Moshé Rabbeinu.
Bah lui aussi.
Ah non, ils descendent pas. Bah, c'est si. Très rare. Trouvez-moi des Français qui descendent des Gaulois. Bon, la France, c'est un mauvais exemple peut-être.
J'en connais des Gaulois.
Non, sérieusement, c'est très rare. En tout cas, qui ont la même tradition, qui ont la même... C'est fini. Y a pas.
Le téléphone qui sonne.
Donc dans les mots. Il dit ici... Donc le but maintenant, on va accélérer un peu à la fin du chapitre 19. Je suis ici dans le... Voilà. Ve Ine Orensof, au milieu de la page 254. On va dire les Chaim. Allez, Baruch Ata Adonai, Elohim Chaim, Shaka les Mizorans.
Chaim.
Chaim. Chaim.
Chaim.
Ben non, on ne descend pas à 100%.
Non,
descend pas à
100%.
1000%. Tiens. Bah oui,
la même chose. On a la même tradition, on a tous la même chose.
Mais sinon, il n'y aurait pas de juif noir.
Mais c'est pas, ça, c'est pas, ça, je parle pas du visage, je parle de Minagim.
On était génétiquement hyper proche.
Alors,
mais il n'y a pas de
race. Dans les mots. Maintenant, ce qui veut expliquer, Rabotai, on va accélérer un petit peu, donc on est à la fin du chapitre 19.
On n'est pas génétiquement.
On est au milieu de la page 254. D'accord ? Il dit comme ça.
On n'est pas une lettre.
Il dit. Il y a un téléphone qui sonne ?
Oui, c'est le mien.
Vous voulez pas l'éteindre ?
C'est madame. C'est sa femme.
On a été dit, mais s'il vous plaît.
Ça, c'est le message.
D'accord. Ok.
Tu vas s'arrêter là.
Certainement.
Très bien.
Mais il a l'air.
Vehine. Orensov. Maintenant. Ça, en vérité, Rabotai, tout ça, maintenant, la fin du chapitre 19 va être une introduction au chapitre 20 qu'on va commencer dans quelques instants. Dans le chapitre 20, on va parler des deux premiers commandements. Anochi Hashem Elokecha, Lo Yilecha Elokim Avachirim Alpanaï. Deux premiers commandements, c'est écrit que dans ces deux premiers commandements, il y a toute la Torah. Le premier commandement est la base de toutes les mesures positives, je suis l'éternel ton Dieu.
C'est pas ça, c'est
le deuxième commandement est la base de toutes les mitzvot négatives. Tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Ça, c'est le chapitre 20. En fait, ce qu'on va expliquer maintenant à la fin du chapitre 19, c'est l'introduction, c'est une sorte d'introduction au chapitre 20. Pourquoi ? Parce que là, ce qu'on va expliquer maintenant, c'est qu'on va s'adresser à chaque juif. Même un juif qui dit, moi je suis à des années-lumière de ça. D'accord ? Je suis très très loin de ça, et c'est impossible pour moi, c'est impossible pour moi de dire que je vais faire les mitzvot. On va lui dire, c'est très simple. Est-ce que tu crois en Dieu ? Est-ce que tu peux dire, Anochi Hashem Elokecha ? Est-ce que tu peux dire que Dieu est ton Dieu ?
Il y a plein qui croient en Attendez. Dieu aujourd'hui, il y a plein.
Il va te répondre, oui, attends, ouais. S'il vous plaît. On va prendre un cas classique, des gens normaux. Il va te répondre, oui, Dieu est mon Dieu. Est-ce que tu es d'accord que le deuxième commandement, Lo Yilecha Elokim Acharim Alpanaï, tu n'auras pas un autre Dieu. Il va dire, oui, ça, je suis d'accord. On a un Dieu, c'est Hachem, et on n'a pas d'autre Dieu. Eh bien, vous savez ce qu'on va lui répondre ? C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. On va lui dire, si tu crois aux deux premiers commandements, puisque les deux premiers commandements sont la source de toutes les mitzvot, premier commandement, mitzvot positive, deuxième commandement, mitzvot négative. Il n'y a pas de raison que tu ne suives pas pour le reste. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas suivi ? Parce que ton Yetzer Hara, il t'a construit une montagne devant toi. Toi, tu dis, deux premiers commandements, ça oui. 10 commandements, ça oui. Surtout les deux premiers commandements. Mais tu lui dis après la suite, il dit non. Il te dit en vérité, c'est très simple. Il te dit, si tu as réussi à accepter les deux premiers commandements, c'est qu'en vérité, tu peux accepter tous les autres. Seulement quoi ? C'est un piège de ton Yetzer Hara. Et là, il donne un exemple. Veine. On va aller dans les mots. Veine. Orensov, juste, monsieur Benita, on va avancer un peu dans les mots. Veine. Orensov, Baruchu, Amelubash, Bechorma, Shebenefesh. Chacun de nous, dans notre âme, dans le niveau de Chorma de notre âme, nous avons l'infini divin. Et je pèse mes mots, c'est ce qui est écrit. L'infini divin. Chacun de nous, au fond de nous, on a notre Neshama, et cette Neshama, c'est un morceau de l'infini divin. Orensov. Qui se trouve en moi. Gadol ve'atsum koro kolkach. La puissance de cet infini divin, sa puissance est extraordinaire. Et tout le monde l'a, même le rachat. L'égaresh, il a la force pour renvoyer. Velitrot, et pour repousser. Asitrahara, l'autre côté, donc le mal. Ve'aklipot, et les forces qui nous empêchent, vous savez, à Kadosh Baruch Hu. Shelo yuchlu ligu afilu bilbushav she'em marshava dibur umase shelemunat Hashem Echad. C'est très simple. Écoutez un exemple très simple. Imaginez une personne qui n'est pas pratiquant. Il pratique rien du tout. D'accord ? Ce bonhomme-là, un jour, on lui dit, écoute, puisque tu pratiques rien, maintenant tu vas te convertir. Alors, on a déjà expliqué dans le chapitre 18 qu'il ne va pas se convertir parce qu'il va faire Messirut Nefesh pour croire en Dieu. D'accord. On sait qu'à la fin, il ne va pas se convertir. Mais peut-être. Vous savez, on a trois vêtements. On a la pensée, la parole, l'action. Peut-être au moins, il va y penser. Peut-être qu'il y a une pensée qui va l'effleurer, peut-être que je me convertis. Peut-être qu'il va en parler. À sa femme, à ses enfants, à sa famille. Peut-être que je vais me convertir. Peut-être qu'il va le faire. Sans y croire. Qu'est-ce qu'on voit dans la pratique? Et ça, on a des histoires qui confirment ce que je suis en train de dire, c'est des histoires qui sont passées. On avait des réchaïm dans l'histoire, et pourtant, non seulement qu'ils n'ont pas fauté, ça c'est clair, qu'ils ne sont pas convertis. Mais même, ils pensaient. C'est-à-dire même pas, ça leur vient à l'esprit. C'est-à-dire qu'à peine, il y a le Yitzhara qui leur envoie à peine l'idée, il dit peut-être on se convertit, mais même pas, ça leur effleure l'esprit. Tout de suite, il repousse l'idée à tel point, qu'en vérité, normalement, le Yitzhara, il pense même pas te proposer cette idée, parce qu'il sait que tu vas le jeter. Tu sais, le Yitzhara, il te propose pas une idée qu'il va le jeter. C'est comme un commercial. Commercial, quand il sait qu'il va se faire jeter, il te propose pas l'idée.
Il va
pas se prendre la tête pour ça. C'est pour ça que le Yitzhara, même pas, il te met dans la tête l'idée, peut-être on va se convertir. Même pas. Ni pensée, ni parole, ni action. Pourtant, ce juif-là, c'est un même juif qu'il y a quelques instants, il était en train de faire toute la vérote du monde. Et ça ne l'a pas dérangé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a touché aux deux premiers commandements, premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, deuxième commandement, tu n'auras point d'autre Dieu, là tout de suite, il dit ces deux commandements-là, je les accomplis à 100%. Je les accomplis à 100%, ça veut dire, ni je faute, ni je pense à fauter, ni je parle de la faute, ni je... rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il te rajoute encore un autre point très important, et après je vois qu'il y a plusieurs qui veulent poser des questions. Il dit comme ça. Il dit, des fois ce qui peut arriver, c'est qu'une personne, son cœur et sa bouche ne sont pas cohérents. Ça veut dire qu'il pense quelque chose et il fait autre chose. Alors, on aurait pu penser que si une personne ne se convertit pas à d'autres religions, c'est parce qu'il n'a pas le cran de le faire. Mais en vérité, il y pense. Ou vice versa. Il n'y pense pas, mais concrètement, il va le faire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dès qu'on touche à ces deux mitzvot-là, ça veut dire croire en Dieu et ne pas aller chercher d'autres dieux, on voit qu'une personne est prête à tout faire pour même pas y penser, même pas en parler, même pas le faire. Ça, c'est un exemple pour nous montrer quoi? C'est un exemple pour nous montrer que même si tu es un juif qui t'a un rachat, quand il arrive devant des choses comme ça qui réveillent sa neshama, c'est l'infini divin qui se réveille, et c'est comme si vous avez une bombe atomique, une bombe qui va exploser devant un endroit qui est devant une montagne de cire, tout de suite elle va fondre et elle s'en va, c'est fini, il ne reste plus rien. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que moi je croyais que ce juif là c'est fini, il est cuit, il est mort, il n'y a plus rien à faire, plus rien à tirer. Vient un moment dans lequel on lui rappelle qu'il est juif, et toute la montagne qu'il avait, qui s'est construite avec le temps, qui dit moi je suis athée, moi je ne crois plus en rien, etc. Elle a explosé, elle a fondu comme de la cire. Voilà pourquoi c'est très important ce qu'il explique ici, pour montrer que tellement la Emouna peut être forte, à tel point que même pas ça vient en tant que théorie, en tant qu'hypothèse. Peut-être que je vais me convertir. Même pas. Il n'y a pas d'hypothèse. Il ne va pas se convertir. Pourquoi? Parce que ça, c'est une mitzvah à laquelle personne ne touche.
Pardon.
Voilà, maintenant les questions. Allez-y.
Alors comment peut-on expliquer que tu as des grandes familles françaises, enfin juives françaises, qui se sont converties il y a maintenant 70 ou 80 ans?
Juive.
Ouais. D'accord. Je pense à
Fabius.
De Bray.
Alors, c'est une très bonne question que tu poses. D'abord, il y a deux réponses. D'abord, il y a une première réponse.
Au moment de la guerre, en fait.
Une première réponse, c'est que faut faire la différence entre la majorité et la minorité. De minorité, il y en a toujours. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que même chez les Réchaïs, il y a une minorité, c'est comme ça. Premièrement. Deuxièmement, ce que fait la différence aussi, c'est qu'il y a une différence entre ce que la personne fait et ce que la personne pense. Dans la majorité des cas, ce qui explique ici dans le Tanya, c'est que ni il fait, ni il pense le faire. Ça veut dire ni dans son cœur, ni dans l'action. Aucun des deux. Ce qui peut arriver des fois, c'est que des fois on a un des deux. Dans une minorité qui va flancher. Par exemple, au fond de lui, il continue à croire en Dieu, à se sentir juif, mais au niveau de la pratique, il va lâcher. Ouais. Comme on a eu le cas avec les maranes, comme on a eu le cas avec des cas comme ça. Mmh. Mais dans la majorité des cas, c'est pas comme ça. Dans la majorité des cas, des juifs comme nous, d'accord?
Non, donc tu parles d'exception.
Mais sûr, sous la contrainte.
Et puis des fois, t'as les enfants qui reviennent même.
Par amour.
Oui, c'est ça.
Non, par amour, ça veut dire quoi?
Des fois, t'as même les enfants qui reviennent à la...
parce qu'il a rencontré un goy ou une goya.
Ça s'appelle aussi la... Excuse-moi, pour moi, j'appelle ça aussi la contrainte.
Mais ça arrive tous les jours, ça, par exemple.
L'amour, c'est
contrainte. Qui se marie avec un Marocain ou une Tunisienne.
Mais l'amour... Attends, Avner, l'amour, c'est contrainte. C'est une contrainte sentimentale, c'est une contrainte, c'est sûr que c'est une contrainte. C'est quelque chose qui est plus fort que lui.
C'est la guerre.
Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, pour reprendre, le but de cette fin de chapitre 19, c'est de nous expliquer cette notion que les deux premiers commandements, personne n'y touche. Et que même si c'est une personne qui était rachat dans la vie de tous les jours, qui s'est construit des montagnes de Averot, dès que tu touches à des mitzvot capitales comme ça, comme croire en Dieu et ne pas croire en un autre Dieu, tout de suite, il y a son infini divin qui est en lui, l'infini divin qui est en lui, qui se réveille et qui fait tout sauter. Qui fait tout sauter à tel point qu'il oublie qu'un jour il était loin d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'ils disent. Oui.
On n'est plus attiré parce qu'il y a eu des prières qui ont été faites par des chachamim, etc. Mais à l'époque,
ils avaient la même souterraine.
Alors, pourquoi Yonali a dû faire des miracles pour pour que les gens y croient.
Mais encore une fois, ils continuent à croire.
Là, j'ai déconné.
Ils continuent à croire en Kadosh Baroukh.
C'est une forme de service de Dieu.
Ils n'ont jamais arrêté de croire en Kadosh Baroukh.
Service de Dieu comme ça,
c'est. Non, c'est autre chose. Oui, d'accord, mais là, c'est autre chose. Là-bas, eux, ce qu'ils considéraient à ce moment-là, c'est qu'ils considéraient que ça, c'est un intermédiaire pour. C'est un intermédiaire pour leur permettre de se connecter avec Dieu. Ils n'ont jamais pensé qu'il n'y a pas Dieu. Jamais ils ont dit qu'il n'y a pas ce Dieu, c'est un autre Dieu. Ça n'existe pas, ça.
On fait l'erreur de croire qu'on peut le servir.
Ils ont dit que pour le servir, on peut le servir différemment ou bien on peut passer par des intermédiaires. Bon, c'est une erreur, on peut passer par là. Et de croire en Dieu, enfin, juif, il croit en Dieu. Quoi ? C'est vrai ? Tu as raison ? Parce que pour un juif, on ne parle pas seulement de l'obligation de croire en Dieu, on doit croire en fait que Dieu est un Dieu unique. Ça veut dire qu'il passe par des intermédiaires.
Là, le prophète qui change un mode de la Torah, de quelqu'un, qui peut peut-être être martyr, par exemple, par les mères, on leur a dit,
là, c'est pas si
je présente, ça vous êtes devenu
quelqu'un.
Même s'il coupe la lune en deux,
d'accord.
Il a peut-être coupé en lune en deux, mais ils ont pris le mode.
D'accord, on va essayer.
Il a changé la Torah. Alors, on peut pas l'accepter. À l'époque,
il est grand,
il
m'a fait d'en profiter. À l'époque, c'était dit, c'était pas comme ça.
Pourquoi il n'y avait pas cette messiroute nefèche qu'on a nous maintenant, ils n'avaient pas eu à l'époque?
Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas vraiment idolâtres. Ils étaient un peu sur les deux. Ça veut dire qu'ils ne se sentaient pas que ça les dérangeait. Parce qu'ils se sentaient encore toujours juifs. Ils étaient possédés à Hachna Seifim.
C'est pour ça.
Ils ne devenaient pas vraiment idolâtres. Si tu veux, ça ne les dérangeait pas le matin d'être à la synagogue et l'après-midi d'être à l'église. On ne peut pas comprendre parce que nous, parce qu'on n'est pas comme ça. Ils étaient sur les deux plans. C'est-à-dire, dans leur tête, ils ne réalisaient pas la gravité de ce qu'ils faisaient.
Il y a des verres de sérieux.
Il y a
de la vodka à côté, là.
Non, je ne crois pas. Non, je crois qu'ils ne réalisaient pas. Car tellement la Avera, elle était forte, c'est comme on dit qu'à l'époque, la Avera de l'Itzara de l'idolâtrie, c'est comme l'Itzara des femmes aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que le bon, il peut être en train de faire une Avera, mais tellement il est dans son.
Il n'en a pas conscience.
Il ne se rend pas compte que c'est grave. C'est grave. Il oublie que c'est grave. Pour lui, c'est bien.
Il oublie
bien.
Il
oublie que c'est grave.
Qu'est-ce qui fait que maintenant pour nous c'est très grave?
Parce que maintenant Dieu il a enlevé celui de Sarah.
Il y en a mis d'autres,
pas de problème.
Ça veut dire que
est-ce que ça s'appelle la Avodah Zara pour autant?
Même cette Avodah Zara n'a pas d'emprise.
C'est pas qu'elle n'a pas d'emprise, c'est qu'elle peut t'aider pour ne pas lâcher prise complètement. Ne pas dire j'ai plus rien à faire avec Dieu. Ça ne suffira pas. D'accord? Donc je reprends Rabotai. Ce qu'il explique ici, l'Admor HaZaken, c'est qu'on voit que n'importe quel juif, même un juif qui est le plus loin possible, ce juif-là qui s'est construit une montagne devant Akadosh Baruch Hu, dès qu'arrive un moment dans lequel on touche à des avérotes capitales, comme la croyance en Dieu, c'est fini, toute la montagne qu'il a construite, elle va s'effondrer, elle va fondre comme de la cire. Et tu dis ici, il explique ici la chose suivante. Tu dis que c'est tellement puissant que même parler de ça, il n'a même pas envie de parler du fait, réfléchir à l'éventualité qu'il va aller chercher autre Dieu. Vezé Nikra, Trilou par exemple, vous savez, avec les événements qui se passent en France maintenant. J'ai entendu des gens qui parlent d'Aliya, j'ai entendu des gens qui parlent beaucoup de choses. J'ai pas entendu des gens qui m'ont dit, ben, on va arrêter les Juifs. Peut-être, pourquoi pas. Au moins, est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la pièce ici, qui a pensé, qui a dit, bon ben, je vais arrêter les Juifs. Est-ce que ça vous est, non, attends, j'ai pas, encore une fois. Non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas sur la même longueur d'onde.
Ça veut pas dire
on parle pas de la même chose. Est-ce qu'il y a une personne,
je parle même pas
de le faire, est-ce qu'il y a une personne que à son esprit est venue lui effleurer l'idée de dire, bah, tu sais quoi, peut-être on devrait arrêter d'être juif.
Il peut pas, on va le faire.
Pourquoi ça ne nous est pas passé par la tête?
Tu peux pas, c'est comme si tu vas dire demain.
Quand tu te lances dans une affaire, elle marche pas, à un moment tu dis, je m'arrête. Pourquoi pour ça, ça ne vous est pas venu à un seul moment à l'esprit de dire, bah, tu sais quoi, je vais arrêter d'être juif? Pourquoi? Pourquoi des juifs, au cours de l'histoire, qui ont été sur le bûcher, qui ont souffert, et que même si des fois ils ont raconté des choses, jamais à un moment une personne dit, mais tu sais quoi, peut-être je vais arrêter d'être juif. Pourquoi? Parce que on a touché aux deux mitzvot capitales, qui sont les deux premiers commandements. C'est tout. Et que ça, c'est quelque chose qui est une valeur que personne ne peut toucher.
Non, mais ceux qui ont oublié d'être juifs,
tu m'as dit à la sortie quand même, ils ont caché leur identité, même avec. Ils voulaient plus.
Ils ont caché leur identité.
À leurs enfants.
Mais ils n'ont pas arrêté d'être juifs.
Oui, mais il y a raison d'un. Mendy, deux secondes, pardon. Quand il y a eu ce côté très assimilation dans l'Allemagne de XXe siècle, oui. Les gens voulaient absolument oublier d'être juifs.
Bien sûr.
Le pire, c'est qu'on leur rappelait.
Alors, ils ne voulaient pas oublier qu'ils étaient juifs. Ils ne voulaient plus se manifester différemment en tant que juifs.
Ils n'ont pas vu le
Mais jamais à un moment ça revient dans la tête de dire on arrête d'être juif. Ça n'existe pas.
Oui.
Tu vois la différence ? C'est une nuance qui est très importante. Rabotai, vous entendez, Dan il a posé une très bonne question. Ça veut dire comme ça. On a eu beaucoup de juifs dans l'histoire qui ont voulu, à un moment ou d'autres, et qui l'ont fait, arrêter de se comporter et d'agir comme des juifs. Mais à ce moment-là, quand tu viens voir cette personne, tu dis alors tu n'es plus juif ? Il aura du mal à te répondre non, je suis plus juif.
Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, non ?
Vous savez, regardez, je vous donne, même les fous. Il y a un fou dans le quartier ici. Là.
Hein ?
D'accord ?
Il y en a plusieurs.
Non, je vais vous raconter, il y a un fou dans le quartier. Un fou, malheureusement. Bon, il est juif.
Genre 1m80.
D'accord ?
Ah oui, le grand, là.
Voilà, exactement.
120 kilos.
Ouais. Et bon, et chaque fois que je le vois, je lui dis viens, la synagogue, viens, on va te mettre les tefilines. Il me dit c'est fini, je crois plus en Dieu, je me suis converti. Surtout pas Shema Israël, c'est le feu. La Shabbat, il me l'a sorti. Surtout pas Shema Israël, c'est le feu, ça. Un gars qui est là, qui tourne ici. Très grand, t'as beau pas le rater.
Quand il passe chez David, il dit, je suis juif. T'as pas une pizza.
Laisse-moi m'approcher.
T'as pas une pizza.
Chaque fois qu'il veut passer, il veut me convertir.
C'est lui qui veut me convertir.
Viens, je t'expliquais. Et il recommence à me parler de la Shoah. Il me dit, ouais, Dieu n'était pas à la femme, des trucs.
Oui, mais
il est révolté.
Alors
je lui dis, mais pourquoi il s'est enlevé les tefilines ? Il dit, non, pas les tefilines, c'est du feu. C'est du.
Non, mais ça lui fait peur.
Ça lui fait peur. Hein ?
Il a approché trop près.
Et il va me convertir au bouddhisme, je sais pas quoi.
Hein ?
Non, mais c'est vrai.
Bon, il est pas stable, c'est pas la question.
Il a approché trop près.
Donc, dans les mots, pour revenir à notre sujet, ce qu'il dit ici.
La timbale ou la cabale ?
Oui, pas de problème. Bon, il est pas stable. Mais pour dire qu'on ressent le fait qu'une personne ne veut pas accepter le fait qu'il va arrêter d'être juif. Alors, dans les mots. Vezé nikra trilou anichlal birchimu. Alors, il termine ici par un point très important. Alors, dans les mots, ici, on est à la page 255, au milieu de la page. Veze nikra trilou anikral bichimu. Plusieurs personnes avaient posé la question au début du chapitre 18. On avait parlé, vous vous rappelez, de l'amour caché qu'on a au fond de nous. Et plusieurs ont posé la question, je dis, mais l'amour caché et la crainte. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte aussi, on n'a pas la crainte de Dieu ? Est-ce qu'on n'a pas une crainte cachée ? Alors, c'est original la réponse qu'il donne. Il dit, en vérité, dans un amour très fort, il y a une crainte. Tu sais pourquoi ? Quand tu aimes quelqu'un très fort, tu as peur de le perdre. C'est exactement ce qui se passe chez un juif. Tellement il aime Dieu très fort au fond de lui, qu'il a peur de se séparer de Dieu. Et dès qu'il y a une petite idée qui vient l'effleurer, qui lui dit « peut-être on va arrêter d'être juif », tout de suite il la jette. Mais c'est par la peur qu'il fait ça. Mais ce n'est pas une peur qu'il a peur que Dieu va le punir. C'est une peur qui est liée à l'amour. Tellement il aime Akadosh Baruch Hu qu'il a peur de se séparer.
Et il a peur des sanctions aussi.
D'accord ? Par exemple, un homme a peur de sa femme.
Il a peur d'être éloigné.
Est-ce que ça veut dire qu'il a peur de sa femme, elle va le
frapper ?
Non. Il y a des hommes qui ont peur de leur femme, vous savez, ça peut arriver des fois.
On a tous peur de notre femme.
Ils ont comme ça. Pourquoi ils ont peur ?
C'est lui qui a pas peur.
Alors vous pourrez revenir ce soir chez vous, à la maison, et vous allez raconter à votre femme, vous allez lui dire, on a appris au cours de Tania, que quand un homme a peur de sa femme, ça veut dire que tellement il aime qu'il a peur de se séparer d'elle. C'est ça ce qui est la peur d'elle. Ah oui,
un bon prétexte pour éviter les
ça. Ça veut dire tellement il aime qu'il a peur de se séparer d'elle. Et c'est de là que vient la peur. Après, on peut aller dans d'autres directions. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit ici que tellement un juif il aime Akadosh Baruch Hu, alors shemichef tzaur tzona betival et davek b'sharsham kora sheor en tzav baruch hu shemipnei ahavazo veratzon ze i yerea umfachedet betival. J'accélère parce que j'explique à l'oral. Quand tu sais, par exemple, que ta femme, que tu aimes, d'accord, elle aime pas quelque chose. Elle aime pas que tu fasses quelque chose. Alors tu as peur de t'en approcher, ne serait-ce que même y penser. Parce que tu as peur de ça, tu veux pas te séparer. Calva Romer a plus forte raison quand on parle de l'amour qu'un juif il a envers Akadosh Baruch Hu. Qu'au fond de nous, on a tous un amour très puissant vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est un amour qui est tellement puissant que dès que le Yitzhara, il veut même te mettre l'idée de te dire, peut-être on va se séparer d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu jettes ton Yitzhara. Shehi neged emunat Hashem echad, afilu bilvushim achitsonim, shem dibur maase bli emunat balef klal. Voilà, je termine avec ça, chapitre 19, pardon. Donc avec ça, on a compris comment on voit que lorsqu'une personne, on lui propose de faire Avodah Zara, il est prêt à faire Messirut Nefesh, à donner sa vie pour ça. Pour tout! D'accord ? Ça veut dire, ni pour le faire, ni pour y penser, ni pour en parler, il veut rien faire, parce qu'il a peur de se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Alors, dans ce cas-là, maintenant, on pourrait se poser deux questions. D'abord, première question, si on arrive à le faire pour deux mitzvot, pourquoi on n'arrive pas à le faire pour le reste ? ça on le voit dans l'histoire. On voit que on arrive à faire Messirut Nefesh pour être juif, et pour le reste, on n'arrive pas. Ah, pour le reste, non, on fait d'Averot, premièrement. Et deuxième question, et c'est une question beaucoup plus fondamentale, et là on va rentrer dans deux chapitres qui sont relativement assez compliqués. Donc on va devoir s'accrocher. Et Bezrat Hashem, on va expliquer. On va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les deux premiers commandements. Pourquoi les deux premiers commandements sont très importants?
C'est Dieu qui nous les a donnés.
Et pourquoi ces deux commandements devaient être donnés par Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces deux commandements?
Bien attaché à nous.
Pourquoi c'est la base de tout?
Là, la première, c'est une formulation qui est affirmative. Donc, ce qui est affirmatif, c'est positif.
Oui, ça, on l'a compris, on l'a expliqué. Mais en quoi c'est important de croire qu'il y a un seul Dieu?
Dès lors que tu considères que tous les autres dieux, comme Abraham Avinu l'a démontré, c'est lui qui a porté la parole et la croyance dans le monde qu'il y a un seul
D'accord.
Dieu. Donc, force est de constater que Hachem, en se dévoilant, va affirmer et confirmer ce qu'a découvert
j'entends.
Et diffusé Abraham.
Ok, j'entends. Donc, je vais challenger, écoutez, je vais aller un peu plus loin, d'accord, je vais vous prendre un autre angle.
Et les autres ont fait que ça d'ailleurs.
Je vais vous challenger sur un passou qu'on lit tous les matins, et qui est considéré, tous les matins, tous les soirs, qui est considéré comme être la pierre angulaire du Ham Israël. Enfin, le passou le plus important, c'est quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
Profession de foi.
Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un.
Étant.
D'accord. Je vais vous poser une question très simple. Est-ce que pour vous, quelqu'un autour de la table, ici, c'est un challenge qu'un matin il se lève et dit, tiens, peut-être il y a deux dieux?
C'est possible.
Nous, non, mais attendez.
Peut-être trois.
Hein?
Quoi, c'est possible?
Non, c'est possible. On peut avoir un doute.
Est-ce que c'est tellement important, d'ailleurs on en parle dans Shahar Echut Vemuna, mais là on va en parler dans chapitre 20 et 21, est-ce que c'est tellement important de me dire qu'il y a un seul Dieu, à tel point qu'on dit toujours tous les matins, première chose qu'on apprend à un enfant, première chose qu'on lit le matin, dernière chose qu'on lit le soir, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Pourquoi quelqu'un ici autour de la tête qui pense qu'il y en a deux?
La question c'est...
Si déjà, à la limite on aurait dû dire, il y a un Dieu. Bon, ça à la limite, rappelle-moi tous les matins qu'il y a un Dieu, rappelle-moi tous les soirs qu'il y a un Dieu. Mais c'est pas ça ce qu'on fait.
C'est important de penser qu'il y en a...
Non, attendez, écoutez bien.
Non, le con.
C'est pas ça ce qu'on fait. On dit, écoute Israël, on dit pas, écoute Israël, il y a un Dieu. On dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ça veut dire que le but du chemin Israël, le mot dans lequel on s'allonge le plus, c'est quoi? C'est le mot Echad. Ça veut dire l'unité de Dieu.
L'unité.
Mais est-ce que c'est compliqué ça de croire? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un challenge ça? Est-ce que c'est un challenge ça? C'est pas un challenge. Est-ce que t'as déjà eu un moment dans lequel tu as pensé, David, peut-être il y a deux dieux?
Non.
Jamais?
Mais c'est la même chose. Le but est le même.
Mais alors dans ce cas-là, pourquoi c'est une idée tellement importante? Surtout, d'autant plus que, regardez Rabotai, que c'est ça le thème des 10 commandements. Les deux premiers commandements, c'est de ça que ça parle. Premier commandement, c'est quoi? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, un, qui est ton Dieu. Mm-hmm. Tu n'auras point d'autre Dieu. D'accord, j'ai pas d'autre Dieu, c'est quoi le problème? Déjà, j'en ai un, c'est déjà pas mal.
Non, c'est un message.
Pourquoi c'est tellement important?
C'est la base de la foi. C'est un message qui s'adresse à la population qui existait à l'époque, qui, elle, avait plusieurs dieux.
Ah, donc la Torah n'est plus actuelle.
Non, ben alors, il le rappelait, c'était un message.
Mais ça veut dire que, d'après vous, monsieur Benita, aujourd'hui, si c'était à refaire, les deux premiers commandements ne sont pas les commandements principaux. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait dû choisir, par exemple, de ne pas voler, de ne pas tuer.
Non. Si aujourd'hui, tous les peuples, ils sont des idolâtres,
travailler plus pour
alors évidemment, plus celui qui va venir, il va me rappeler.
Alors attendez, c'est quoi un idolâtre?
Il n'y a plus là-bas.
Attendez, c'est quoi un idolâtre? Si, on va refaire l'histoire, pas de problème.
Quelqu'un qui adore des statues. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il pense l'idolâtre? Il pense qu'il y a deux dieux?
Il pense qu'il y a plusieurs dieux.
Ah, il pense qu'il y a deux dieux?
Plusieurs.
D'accord. C'est-à-dire qu'il pense qu'ils étaient à deux, ils sont associés, tu vois, ils sont associés, on dit, tiens, on va faire ensemble un monde? Mettez-vous dans la tête d'un idolâtre, vous qui êtes pragmatique.
Un idolâtre, bon.
Et qu'est-ce qu'il pense?
Celui-là a refusé de vous mettre dans la tête.
Il pense, voilà, il a un soleil pour lui, ben c'est le soleil, c'est Dieu.
Ah, le soleil, c'est Dieu.
Voilà.
Non, mais on a dit.
Il y en a qui adorent le soleil, d'autres qui adorent la lune.
Ah, pour lui, le soleil, c'est Dieu. Attendez, doucement. Est-ce que ça veut dire qu'il pense qu'il y a plusieurs dieux? Ou est-ce que ça veut dire qu'il pense que le soleil, c'est Dieu?
Chaque catégorie, une population, et chaque partie de la population, croit en un Dieu.
Mais monsieur Benita, il faut interner une personne qui pense que le soleil c'est Dieu.
Pardon?
Une personne qui pense que le soleil c'est Dieu. Oui. Et que c'est le Dieu exclusif du monde.
Si tu vois le nombre de personnes qui est là, tu penses que le soleil c'est Dieu.
Une poignée de personnes.
Je reprends ma question. C'est une question très importante. On n'arrête pas de parler, de dire que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et que ça, c'est en vérité les thèmes des deux premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu le réponds notre Dieu. Je repose ma question depuis le début. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces commandements? Bah, à la limite, c'est une information, tu vois. Bon, non. Ok, il y a un Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Moi, j'aurais préféré un commandement qui me dit, il y a un Dieu. Et qui me dit, tu feras ton Shabbat, tu seras honnête dans les affaires. Ça, c'est un truc qui me parle tous les jours. Mais de me dire, il n'y a pas d'autre Dieu, bon, d'accord, il n'y a pas d'autre Dieu, je te crois, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas un challenge pour moi de croire qu'il y a un autre Dieu. On est d'accord?
Non, mais il faut le rappeler.
Et en plus, même par rapport à votre question de ce Benita, même ceux qui étaient idolâtres, qui vous m'avez dit qu'ils servaient le soleil, etc., même ceux qui servaient le soleil, à aucun moment ils pensaient que le soleil c'est Dieu. Parce qu'il faut être fou pour croire que le soleil c'est Dieu.
C'est l'intermédiaire, le soleil.
Exactement. Ceux qui étaient idolâtres, ça veut dire, ils disaient, nous on n'arrive pas à trouver le Dieu qui est la source ultime, alors on va communiquer avec ses ministres. C'est qui ces ministres? Ben, c'est ceux qu'on voit, c'est le soleil. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est pas un ministre. C'est comme une hache dans la main du bûcheron, que la hache, d'accord? La hache, en vérité, est-ce que tu vas servir la hache parce que c'est elle qui a coupé le bois? Quand j'ai pris les ciseaux, que j'ai coupé ce verre, qu'est-ce qui a coupé le verre? C'est les ciseaux. Alors on va dire, ah, t'as vu le ciseau, il est très fort. Mais non, c'est non, pas le ciseau. Alors attendez, ça veut dire, comme je vais arriver au bout du raisonnement. Oui. Ça veut dire que même ceux qu'on appelle idolâtres, ils pensent pas qu'il y a deux dieux. Ils ont jamais pensé qu'il y a deux dieux. Seulement eux, ils disent, ce Dieu, comme on n'arrive pas à le communiquer avec lui, donc on va aller chercher des intermédiaires, des interfaces. Donc, il y a l'interface du soleil, il y a l'interface de la lune, il y a l'interface. Nous, on n'a pas le droit d'avoir ça. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, dire qu'il y a un Dieu et qu'il n'y a pas deux dieux, je pense qu'il n'y a pas de personne dans le monde pour lequel c'est un challenge. Le vrai challenge aurait été de croire qu'il y a un Dieu.
Mais je suis pas, c'est pas forcément vrai. Parce
pourquoi
que je pense que si tu le, déjà, d'une part, tu le répètes comme tu parles le matin et le soir, c'est que c'est, ça doit pas être si évident que ça, à concevoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Eh ben, c'est ça ma question. Pourquoi c'est tellement compliqué?
Je pense que si déjà, quelque part, dès que tu nais, dès qu'on t'éduque, dès que tu saches, on te le passe ce fondement-là, je pense que quelqu'un qui est livré à lui-même, il pourrait aller finalement à toutes les hypothèses possibles.
D'accord. Est-ce que tu connais des gens dans le monde aujourd'hui?
En dehors de toute religion, en dehors de tout, peut-être que lui, comme tu dis, s'inventer beaucoup de.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, qu'il y a des gens dans le monde qui pensent qu'il y a plusieurs dieux?
Je suis
bouddhiste. Attendez, écoutez ma question.
Je ne pense pas. Je pense que.
Alors moi, je vais te répondre. Il n'y a pas une personne dans le monde qui pense qu'il y a deux dieux. Ça n'existe pas. Alors. Seulement, ils vont créer des interfaces. L'interface du soleil, l'interface de l'idole, c'est des interfaces, tout ça.
Mais, les Grecs, ils avaient pas...
Mais on arrive toujours à la même conclusion. Donc en vérité, aujourd'hui, le monde, on peut le catégoriser en trois.
On ferait le même chemin.
D'accord.
Qu'à Rame, alors.
On peut le catégoriser en trois. Il y a ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. D'accord. Il y a ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui vont servir les interfaces qui leur permettent d'accéder à Dieu. Et il y a ceux comme nous, Acharon Traviv, les derniers c'est les meilleurs, d'accord, c'est nous, qui disent, il y a un Dieu et on n'a pas d'interface, on communique directement avec lui. Donc si déjà il y a un challenge, c'est quoi le challenge? C'est soit de dire qu'il y a un challenge de croire qu'il y a un Dieu sur Terre, soit de dire tu n'auras pas d'interface. Mais c'est pas ça ce que le verset dit.
Non.
Le verset dit tu n'auras point d'autre Dieu. Donc ça veut dire qu'apparemment on s'adresse ici à une personne qui penserait qu'il y a deux dieux. Je connais pas des gens qui pensent qu'il y a deux dieux. Et en tout cas pour moi, ça n'a jamais été un challenge, oui, d'accord? Et je pense que même pour une personne qui, je pense que pour personne autour de la table ici, c'est un challenge de dire peut-être il y a deux dieux. Alors si ça me parle pas, dans ce cas-là, c'est pas normal que Dieu a investi particulièrement les deux premiers commandements, puisqu'on les a entendus directement de Dieu, contrairement aux autres commandements qu'on a entendus de Moïse Rabbeinu.
Je suis ton Dieu, ça inclut d'accord les commandements.
Pourquoi?
Ça inclut.
Pourquoi ça inclut les commandements?
Ça inclut pas seulement la phrase.
Pourquoi ça inclut les commandements? Quel rapport?
Tout ce qui va avec.
Quel rapport? Pourquoi?
Comment ça, quel rapport?
Pourquoi ça inclut les commandements?
Mais parce que tout.
Pourquoi c'est important tous les matins de dire qu'il y a un Dieu? Qui pense qu'il y a deux dieux?
Non, dis pas qu'il y a un Dieu.
Hein?
Dis pas seulement ça.
Oui. Non, pareil. On n'emploie jamais le terme de. On n'emploie jamais les termes de Dieu. On dit deux domaines. Ça veut dire qu'il y a un Dieu, il y a les interfaces, il y a le bien, il y a le mal. C'est les interfaces, tout ça. Mais jamais personne va dire dans le monde, il va dire, il y a deux dieux. Un dieu ultime, tout le monde sait qu'il y en a un seul. Dans toutes les religions, vous pouvez tester toutes les religions, il y a toujours, il y a un dieu, il y a son fils, il y a son...
Non.
Nous, on est tous des fils de Dieu, d'abord.
Il y en a aussi qui sont arrivés à être athées, finalement, tout simplement.
Il y avait des amours. 2000 ans que ça dure.
Alors, dans ce cas-là, le Shema Israël aurait dû dire, Shema Israël, Yesh Elohim. Écoute Israël, il y a un dieu. C'est tout.
Ils sont arrivés par leur truc à dire qu'il n'y a pas de Dieu.
Mais c'est, ça aurait été le challenge. De dire, rappelle-toi qu'il y a un Dieu. Mais c'est pas ça ce qu'on dit. On dit, écoute Israël, l'Éternel qui est notre Dieu, il y a un seul Éternel. Ça veut dire comme ça. On parle d'un postulat. C'est quoi le postulat par lequel on parle du chemin Israël? On parle d'un postulat que tu sais qu'il y a un Dieu et que tu pourrais penser qu'il y a deux dieux. Alors on vient te dire, attention, il n'y en a qu'un seul. Tu entends ce que j'ai dit? J'ai pas dit, écoute Israël, il y a un Dieu. J'ai pas dit ça. J'ai dit, l'Éternel qui est notre Dieu, c'est le seul. Pourquoi il y a un autre?
C'est pas consolable.
Mais est-ce que tu connais des... Est-ce que pour toi, c'est un challenge?
Il n'y a pas de la concurrence.
On peut concevoir qu'il
devait... Moi, je veux dire, je veux bien que le chemin Israël... Vous savez, c'est comme dans une affaire. Excusez-moi d'être un peu cru, mais c'est comme dans un business. Dans un business, le slogan du business, t'en représenter l'affaire. Ça veut dire que on te dit, résume-moi le judaïsme en un mot. Demande à n'importe quelle personne, n'importe quel juif dans la rue, résume-moi le judaïsme en un mot. Qu'est-ce qu'il va te dire? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Bravo. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un. C'est ça le judaïsme? Pourquoi? Il y a des gens ici qui
pensent
que c'est
dur. Non, mais c'est pas.
C'est quoi le challenge? Mais c'est quoi le challenge? Où est le challenge ici? Il n'y a pas de challenge? Alors, ok, il n'y en a pas deux. Et alors?
Il y a plein de choses derrière.
C'est quoi la question?
C'est quoi un? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Plein de choses derrière.
Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Le fait qu'il soit un.
Il y a la Torah derrière.
Un élément.
On a perdu David.
Mais on peut très bien concevoir qu'il y en ait deux.
David.
Pourquoi concevoir qu'il y en ait deux? Je me suis fait d'un.
Est-ce qu'il peut avoir
comme il a dit Dan, il y a.
Mais c'est pas un challenge.
Il peut en avoir deux ou pas?
Peut-être. Un fou peut penser qu'il y a deux.
Moi,
je pense qu'une personne qui est normalement conçue peut pas arriver à un résultat, peut pas arriver à une conclusion qu'il y a deux éléments. Parce que dans toutes les sciences, c'est comme ça. Dans toutes les sciences, c'est comme ça que quand on remonte, on doit remonter à un élément. Tout le temps, c'est obligatoire. Il y a un élément créateur. Alors comment ça s'est passé? Parce que si tu dis qu'à la source, il y a deux éléments, il y a bien un qui a créé l'autre. Comment ils sont venus les deux? Il y a forcément un élément origine. Sans l'appeler Dieu, appelle-le force, appelle-le ce que tu veux. Il y a une origine. Ils viennent d'une maman. Donc il y a une maman.
En même temps, Dieu n'a pas de maman.
Il y a forcément un élément. Mais tu ne peux pas avoir deux éléments qui naissent. C'est impossible. La nature, il n'y a aucune chose qui peut démarrer de deux.
Dieu ne naît pas.
Justement. Ça veut dire que dans n'importe quelle chose que tu fais dans le monde, quand tu remontes à la source, il doit y avoir un élément. Obligatoirement.
Mais ça c'est les...
C'est quoi?
C'est scientifique que tu nous dis.
Mais c'est la logique.
Est-ce que, bah,
alors tu sais quoi, David? Ok, j'entends ta question.
On est hors logique.
Oublie les sciences, d'accord? Oublie la logique. Je te pose une question. Est-ce que pour toi, une fois, ça a été un challenge de croire qu'il y a deux dieux?
Pour moi, non.
Alors, à quoi tu penses quand tu fais Shema Israël? Ribono Shel Olam. Les gens, ils sont là, en train de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. À quoi tu penses? Ouais, il y a un seul Dieu. D'accord, il y a un seul Dieu.
Ça, c'est Géniche.
Hein?
C'est Géniche.
Excusez-moi, je vois pas en quoi ça me parle. Moi, ça me parle pas.
Aujourd'hui, on connaît Dieu, alors peut-être que ça nous parle moins, mais celui qui connaît pas Dieu.
Je vous pousse loin parce que je connais la réponse. Hein,
mais oui, mais on sait que tu connais la réponse. On veut pas qu'on comprenne.
Mais excusez-moi, là, pour l'instant, ça tient pas la route. On est là en train de faire la grande cabana. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un. Pourquoi il y en a deux?
On peut pas modifier
le texte. On est bloqué quoi.
On va pas modifier, on va pas dire.
Oui. Oui.
Non seulement je pense qu'il peut avoir deux, mais Dieu a été obligé d'ouvrir des cieux et de leur dire à tort et à la date.
Pourquoi? Mais pourquoi?
Parce qu'il a dû leur montrer.
Mais pourquoi il y a besoin de ça? Pourquoi il y a besoin de ça? En quoi pour moi c'est un challenge? Je crois qu'il y a un seul Dieu. Alors on va développer tout ça. Bon. Allez, on a assez posé la question, on va développer. En fait, notre but maintenant, c'est de revenir aux deux premiers commandements, qui sont l'essence du judaïsme, à savoir croire qu'il y a un Dieu et croire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire croire qu'il y a un seul Dieu et ne croire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Et on va expliquer pourquoi c'est des commandements tellement importants, à tel point que même le plus grand des rachats ne peut pas se séparer. Mais qu'en vérité, le Yitzhara, comment il nous piège, il nous dit ça c'est important, le reste c'est pas important. Donc maintenant on va essayer de commenter ces deux commandements, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces deux commandements. On va aller dans les mots. Alors, Véhiné, chapitre 20. Traf. Véhiné, vous avez dans les mots?
Ouais.
Page 257. Véhiné, modat, zot, c'est quelque chose de connu. La colle pour tous. C'est quelque chose de connu pour tout le monde. C'est un message universel. Tout le monde, même les gens qui ne connaissent pas la Torah, savent que dans les 10 commandements, il y a les 2 premiers commandements. Tout le monde le sait, ça. Pourquoi? Ki mitzvah, veaz arat, avodazara. Que la mitzvah et l'injonction, parce que chaque fois il y a la mitzvah, c'est la mitzvah positive, et la azhara, c'est l'injonction négative. Comme on explique dans l'épisode des 10 commandements, et chaque fois qu'on fait la mitzvah du Rambam, on dit que très souvent dans la Torah, tu as la même mitzvah en positif et en négatif. La mitzvah en positif, c'est la mitzvah, ça veut dire mitzvah en hébreu, ça veut dire l'ordre de, d'accord? Azhara, c'est l'injonction de attention, de faire attention. Donc, c'est quoi les 2 premiers commandements? Premier commandement, Shem Shnei Dibrot Harishonim, qui sont les 2 premiers commandements que le Ham Israël a entendu directement d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué vendredi soir? On a dit que Torah Tivalenu Moshe, Torah c'est la valeur numérique de 611, parce que Moshe nous a enseigné la Torah. Mais les 2 premiers commandements, on les a entendus de Dieu.
La théorie.
Quelle théorie? Ah, théorie. Bon, alors, ok.
Non, mais Théo, c'est...
Alors, Shehem, Shne Dibrot Arishonim, Anochi, Veloye, Lecha, les deux premiers commandements qui sont, je suis l'éternel ton Dieu, Anochi, et le deuxième commandement, vous voyez, vous avez ici derrière vous, là, Anochi, premier commandement, c'est Anochi, je suis l'éternel ton Dieu, deuxième commandement, Loye, Lecha, tu n'auras pas un autre Dieu, M, Klalut, Kola, Torah, Kula, sont la généralité de toute la Torah. Pourquoi? Vous savez, on dit que, quand tu veux chercher quelque chose, il faut revenir à son origine. Et que dans l'origine de la chose, on peut retrouver la source, on peut retrouver ce qui va se passer dans la suite. D'accord? Dans l'origine de la chose, c'est là que tu as la suite. C'est quoi l'origine des mitzvot positives? C'est le premier commandement qui te dit, je suis l'éternel tendu. Ça, c'est le klal, le principe. C'est quoi l'origine des mitzvot négatives? C'est le deuxième commandement qui te dit, tu n'auras point d'autre Dieu. Et ça, c'est connu. M klalut kol haTorah kula. C'est la généralité de toute la Torah. Ça veut dire que tout ce qui va suivre après, les 613 mitzvot, d'accord? Les mitzvot que les rabbins ont rajoutés, les idurim, les minagim, tout ça, c'est basé sur les deux premiers commandements. Je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras pas notre Dieu. Pourquoi? Et là, il va commencer à expliquer. Qui dit pour Anochi? La parole Anochi. D'accord? Rabotin, vous êtes avec moi? Il faut se concentrer parce que là, c'est un petit peu, ça se complique un petit peu. Page 258. Tiens, pardon. Excuse-moi. Qui dit pour Anochi? Car la parole de Anochi, le premier commandement qui est « Je suis l'éternel ton Dieu ». Première mitzvah positive. Kolel, il inclut « Kol ramach mitzvot assez ». Il inclut toutes les 248 mitzvot positives. Velo yelcha, et le deuxième commandement qui est « Tu n'auras point d'autre Dieu à part moi ». Kolel, il inclut « Kol shin samech et » tous les 365 mitzvot, lota assez, les mitzvot négatives. Velachen, c'est pour ça. Puisque ces deux commandements, on n'a pas, toujours pas expliqué pourquoi, mais puisque ces deux commandements sont les deux commandements qui sont le principe, c'était important pour Akadosh Baruch Hu que au moins les principes, on les entende de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? C'est raconté dans la paracha Vayetranan. On va en parler de Shabbat aussi. Que lorsque Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu, il a, on en a parlé le Shabbat dernier, pardon.
Enfin, il a donné les deux mitzvot directement.
Alors Dieu nous a donné les deux premiers commandements. Directement. Et les Bnei Israël ont craqué. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ils ont dit, écoute, on n'arrive pas à suivre. Écoute-toi de Dieu, tu nous rappelles. Et tu nous répéteras ce que Dieu a dit. Et Dieu a accepté. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a que deux commandements qu'on a écoutés directement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Gemara nous raconte que c'était tellement puissant les commandements qu'on a entendus directement d'Akadosh Baruch Hu que notre Neshama ne suivait pas. Notre corps ne suivait pas, ni l'un ni l'autre. Et donc du coup, à chaque fois, chaque commandement qu'on a entendu, des deux premiers commandements en tout cas, notre Neshama s'envolait. Elle partait. Parce que c'est trop puissant. Et Dieu nous faisait ressusciter. Alors je vous pose la question, Dieu il savait pas que c'est trop puissant pour nous? Et pourtant, il a tenu au moins les deux premiers commandements, en tout cas d'après la majorité des avis, au moins les deux premiers commandements, il a tenu à nous les enseigner, quitte même à nous tuer et à nous ressusciter. Parce que c'est ce qui s'est passé. Vous savez ce que la Gemara raconte? La Gemara raconte que Dieu nous a tués avec le premier commandement, il nous a ressuscité avec la même rosée qui fera la résurrection des morts. La même. C'est-à-dire qu'on est mort, on a ressuscité. Première fois, deuxième fois, il nous a fait la même chose. Pourquoi il fait ça? Ça veut dire que pour Dieu, c'était important qu'on entende directement de sa bouche au moins les deux premiers commandements. Quitte même à nous faire des miracles pour ça, nous tuer, nous ressusciter. Pourquoi c'était important pour Dieu? Parce que comme Dieu il sait que le premier commandement, c'est la base des mitzvot positives de tout ce qui va suivre, et que le deuxième commandement, c'est la base des mitzvot négatives de tout ce qui va suivre, des minagim jusqu'à ce qui arrive aujourd'hui, Dieu il dit, à défaut que vous entendiez directement de ma bouche comme Moïse, parce que vous n'êtes pas à ce niveau-là, au moins, j'aimerais que chaque Neshama d'Israël, et on était tous au Mont Sinaï, il faut le savoir, que même ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, d'accord, c'est-à-dire même ceux, nous, aujourd'hui, on n'est pas sortis d'Égypte, enfin bon, nos parents, toutes les Neshamas étaient présentes au Mont Sinaï. Chacun de nous était présent au Mont Sinaï, il faut le savoir. Et chacun de nous a entendu directement de la bouche de Dieu. Pourquoi chacun de nous devait entendre directement de la bouche de Dieu?
Pour le gars.
Parce que c'était important pour Akadosh Baruch Hu que au moins les deux premiers commandements qui sont la généralité, au moins la généralité, on l'a entendu de Dieu. Au moins les grandes lignes, on les a entendus de Dieu. Après les détails, t'auras un Moïse et t'auras d'autres rabbins qui vont venir pour t'expliquer qu'est-ce que tu as entendu de Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, si on devait résumer en un mot, vous avez un mot qui commence Anochi, qui est « Je suis l'éternel ton Dieu ». De ça, on va décomposer en deux commandements. Un commandement qui est la base des méthodes positives, un deuxième commandement qui est la base des méthodes négatives. Et là, Dieu s'arrête. Le reste, il le dit à Moïse qui nous répétera. Pourquoi on doit chacun de nous doit entendre au moins les deux premiers commandements? Parce que si tu as entendu la généralité... Après, quand Moïse, il fera seulement que t'expliquer ce que tu as déjà entendu. Il va pas venir t'inventer quelque chose. Il va venir t'expliquer les commandements que tu as déjà entendus. Là, ça simplifie encore plus ma question. Pourquoi, de tous les commandements qu'on devait choisir, on a choisi deux commandements qui, a priori, ne veulent, enfin, c'est pas qu'ils veulent rien dire, mais qui sont pas des éléments qui me parlent, qui sont pas des éléments qui sont majeurs. Je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu. Et c'est tellement important que Dieu a tenu à me les enseigner directement, quitte même à me tuer, à me résister pour ça, et que ça, c'est la base de toutes les misères. Pourquoi c'est la base de toutes les misères?
La scène se passe dans le désert, les gens, ils viennent de sortir du chose, ils ne croyaient pas.
Une fois, monsieur Benita, ce que va vous reprendre. Vous avez déjà dit cette réponse tout à l'heure. La Torah est éternelle.
Il voulait donner la preuve comme quoi il existait.
Quelle preuve?
Il n'y a qu'un seul Dieu.
D'accord.
Parce que c'était des gens des idolâtres.
Mais il faut comprendre que la Torah est éternelle. Et vous savez qu'on dit que Matan Torah, c'est un événement tellement puissant que même lorsque Mashiach va venir, le don de la Torah ne se passera pas une deuxième fois. Il peut se passer qu'une fois dans toute l'histoire du monde. Il ne peut jamais se reproduire. Parce que le don de la Torah, c'est-à-dire que le don de la Torah, c'est une expérience unique. Et que de cette base-là, de Anochi Elohi Elcha, et bien de ça va dépendre tout ce qui va suivre. Même la Torah que Mashiach va nous enseigner, même les Chidushim que Mashiach va nous enseigner, les misotes positives seront basées sur le premier commandement, les misotes négatives seront basées sur le deuxième commandement. C'est-à-dire qu'en vérité, on a ici la base, les principes de la Torah. En quoi c'est les principes de la Torah? En quoi c'est les principes de la Torah? Qu'est-ce qui est le tellement particulier dans ces principes-là? On te dit que c'est les principes, mais pourquoi c'est les principes? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dedans? On avait expliqué. Et là, on va commencer à entrer dans une explication qui est beaucoup plus complexe, on va aller jusqu'au chapitre 21 pour expliquer ça. Pour expliquer bien ce concept-là. Donc encore une fois, la question qui nous dérange, c'est une question, très simple. C'est pourquoi les deux premiers commandements qui sont la base de la Torah, à tel point c'est une base que Dieu a tenu à nous enseigner directement, en quoi c'est une base de la Torah de savoir qu'il y a un Dieu et qu'il n'y a pas de Dieu? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table ici qui pense à un challenge, je crois qu'il y a deux dieux? C'est pas un challenge. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dedans? Il va commencer à expliquer. Vaher et Tevignanze, pour bien expliquer ça, vous avez dans les mots. Alors, page 259. Pour bien expliquer ça, Tsarich, le Haskir Trila, il faut d'abord mentionner Biktsara. Il faut mentionner Biktsara, au moment où on va expliquer en raccourci. Pourquoi on dit en raccourci? Parce que si vous voulez le commentaire, la version longue de ce commentaire, qu'on va expliquer en deux chapitres ici, il faudra chercher dans Shara Echut Vaemuna, qui est une autre section du Tania, en 12 chapitres, qui sont très compliqués. Et là, on va pas rentrer dedans. Là, au moins, on va essayer de faire un condensé, d'expliquer. Là-bas, dans Shara Echut Vaemuna, il pose une question. Il dit, pourquoi c'est tellement important de rappeler l'unicité de Dieu? Est-ce que quelqu'un pense le contraire? Alors, Inyan ou Mahut Ardouto Shalakadosh Baruch Hu. Comprendre, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il y a une mitzvah de croire en l'unicité d'Akadosh Baruch Hu? Shenikra, Yahid ou Miyuchat. D'abord, on va essayer de même faire la différence en français. Est-ce que quelqu'un peut me donner la différence étymologique entre unité et unicité?
Allez, David, vas-y.
S'il y a deux mots en français, c'est qu'il y a deux définitions.
Donne-nous la réponse.
Alors, on va chercher dans le dictionnaire.
L'unité, c'est le fait de rassembler.
Alors, donc on a dit unité.
À partir de plusieurs, faire un, et l'unicité, c'est confirmer une chose qui est une seule.
Alors, vas-y. Donc, unité. Caractère de ce qui est un, unique, un seul.
Voilà.
D'accord? Bon, en didactique, ça nous donne aussi caractère de ce qui forme un tout, de ce qui forme un ensemble ne pouvant être divisé.
On a un bon exemple, là.
D'accord? Caractère de ce qui forme un tout homogène, uniforme et distinct. Voilà, on a trois définitions ici. Ça, c'est unité. Maintenant, je vais taper unicité. On va voir ce qu'on aura raconté. Alors, attendez, on va voir. On va taper unicité. Caractère de ce qui est unique.
C'est pas tout à fait pareil.
Unique. Quelle différence?
Ah, si. Il y en a.
Du latin, unicus, d'accord, qui n'est qu'un. Bon, d'accord. Bon, alors, ça m'amène à quoi tout ça?
Il y a plusieurs définitions d'unité.
Quelle est la différence?
C'est-à-dire que tu peux faire de plusieurs éléments, quelque chose.
Genre un, tu fais un.
Alors, je vais compliquer un peu les choses. Si on va dire, d'accord, je vais compliquer un peu les choses. Est-ce que d'après vous, il y a une différence entre un et unique?
Est-ce qu'il y a une différence?
Quand je dis j'ai un verre, et quand je dis j'ai un verre unique, quelle est la différence?
Ah ben celui-là, il est
sinon,
tu peux en trouver un, on peut en trouver un parceau, et unique, il est unique.
Non, d'accord.
Donc, alors attendez, attention, parce que là, ça va vous faire, ça va vous enfoncer ce que vous venez de dire. Alors,
il faut boire.
Tout ce que vous dites peut se retourner contre vous. Alors, les Chaïm.
Bravo.
Vous avez dit, quand je dis un verre, ça veut dire qu'il y en a un, mais il peut en avoir un deuxième. Mais là, j'en ai un.
Non, mais David, c'est le...
Attendez.
C'est le pronom indéfini.
Mais tu as dit que quand tu... Vous avez dit, pardon, que quand tu dis unique, ça veut dire que...
Un seul.
Il peut pas en avoir deux. Sauf bon. Ah, maintenant, je vais vous donner la définition en hébreu. Comment on traduit? Comment on traduit un en hébreu?
Un verre.
Echad. Écoutez, s'il vous plaît.
Non.
Rabotai, écoutez bien. Comment on dit en hébreu un? Echad. Comment on dit en hébreu unique? Meyachid.
Yachid
Meyuchad. Dieu, il est un ou unique?
Echad Yachid ou Meyuchad?
Unique.
Il est unique.
Unique.
Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il ne peut pas avoir de Dieu. Alors dans ce cas-là, pourquoi on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On aurait dû dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Yachid. On aurait dû dire écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est unique. Mais c'est pas ce qu'on a dit.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi.
Donc il y a un problème.
Non. S'il est unique, ça de la chance.
Unique, c'est une comparaison. C'est une
ah, comparaison. Ok. Très bien, bien vu. Bien, vas-y, bravo, pousse plus loin.
Ben David.
Vas-y, vas-y.
Allez, David, pousse.
Non, continue. Grâce.
Allez, vas-y.
Il peut en avoir deux.
Non, vas-y, continue.
Non, c'est unique.
Attendez, Rabotai, c'est une très bonne piste qu'on a dit.
Deux uniques différents.
Alors, quand tu dis unique, ça veut dire que c'est unique par rapport à d'autres éléments. Alors,
c'est
quand tu dis un,
c'est rare, c'est
un seul. Un, ça veut dire, ouais, il y a un comparable.
Un parmi d'autres.
Voilà. D'accord.
Un parmi d'autres.
Mais alors, comment je peux exprimer le fait que Dieu est seul, Dieu est unique, il n'y a rien qui peut le remplacer? À la limite, on peut dire peut-être Dieu est seul.
Tout unique. Tout émane de lui.
Pourquoi on dit Dieu est un?
Tout vient de lui.
Quand tu dis un, c'est-à-dire qu'il va y avoir un deuxième?
Non, ça veut dire qu'en fait,
un est unique.
C'est-à-dire que toutes les créatures qui sont ici, les deux sont incluses dans Dieu.
Sont incluses dans Dieu.
Unité
d'unité. Ok, on va développer. D'accord. Donc, encore une fois, où veut nous amener ici? Et veut nous amener, il veut te dire que la question, elle est beaucoup plus compliquée qu'on le pensait. C'est pas juste une question qu'on pose, on se dit pourquoi c'est important de rappeler qu'il y a un Dieu et pas deux dieux. En vérité, déjà, même dans l'étymologie, il y a un problème. Pourquoi tu dis, écoute Israël, l'éternel est un? On aurait dû dire l'éternel est unique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'éternel est un? Il va développer. Mais avant de donner la réponse, on va donner plusieurs références dans la Torah où on mentionne le fait que Dieu est un ou unique. On a les deux notions. Alors, des fois, Dieu est appelé Yachid ou Meyuchat. Dans certains endroits dans la Torah, Dieu est appelé Yachid, unique, d'accord? Ou Meyuchad, ça veut dire unique de chez unique, ça veut dire qu'il peut rien avoir qui peut le remplacer. D'ailleurs, comme on dit dans la Tefila, V'chol ma'aminim shehu leva de hu, qu'on a la emuna que Dieu est seul. K'mo sha'ya kodem shenivra ha'olam mamash hu leva de hu. Ah, là, on commence à avoir une piste. Il dit, en fait, on a la Emouna, que Dieu est resté le même, comme il était avant la création du monde, il est resté le même après la création du monde. Donc, attention, on a une piste là. Écoutez varié. Bien. Ça veut dire, quand on dit un, ça veut dire invariable. Vous suivez? Ouais. Ça ne veut pas dire seulement qu'il n'y en a pas deux. Quand on dit un, ça veut dire qu'il est un par définition, et qu'il restera toujours un, et qu'il ne peut pas être deux, comme tu as dit, la piste que tu as dit. D'accord? Ça veut dire qu'il est un à l'éternité. Ça veut dire quoi? Dieu a créé le monde. On aurait pu penser que le monde que Dieu a créé peut avoir un impact sur Dieu.
Non.
De la même manière que quand je crée un produit, quand je crée quelque chose, d'accord, ce que j'ai créé peut avoir un impact sur moi. Je vais créer une voiture, je vais créer un robot, je vais créer une machine. Ce que j'ai créé peut un jour avoir un impact sur moi. Ça peut me fatiguer, par exemple. Donc ça a eu un impact sur moi. Le fait que je me suis fatigué, ça a eu un impact sur moi. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il est Echad, et ce qu'on va développer ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il reste un exactement le même qu'il était avant la création du monde, après la création du monde. Donc on a déjà ici une première définition de un. Un, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit, ne crois pas que toi, tu peux changer quelque chose en Dieu. Puisque Dieu, quand il a créé le monde, ça n'a rien changé en lui. Il n'y a pas eu d'effort. Et ne crois pas que toi, tu peux changer quelque chose en Dieu. Là, on commence un peu à comprendre. C'est pas stam une question, est-ce qu'il y a un Dieu ou deux dieux? Ah, ça, c'est clair qu'il n'y a pas de Dieu. C'est un maboule qui pense aux deux dieux. C'est pas ça la question. Quand on dit qu'il y a un Dieu, ça veut dire, sache qu'il est aussi un et aussi unique comme il était avant de t'avoir créé. Et que tu ne peux rien changer en lui et que ta création n'a rien changé en lui. Et donc du coup, tu ne peux pas l'affecter. Alors c'est très important ça, se rappeler de ça. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Le challenge numéro un de l'homme, c'est quoi ? Qui se rappelle ce qu'on a expliqué la semaine dernière ? Attendez, 10 secondes. C'est quoi le challenge qu'on a expliqué ? C'est quoi le challenge principal de l'homme ? De se battre contre quoi ? Toute la vie, on se bat contre quoi ? Contre l'ego. Donc l'ego, c'est notre ennemi numéro un, c'est notre ego. Quand tu viens voir quelqu'un tous les matins, tu lui dis, écoute, tu sais, Dieu est un terre du style. Que tu sois là, que tu sois pas là, Dieu, il reste le même. Là, déjà, on a déjà une leçon d'humilité, une leçon sur mon ego, et là, déjà, on a une première leçon. Mais c'est pas suffisant. Ça m'explique toujours pas en quoi croire en ça, c'est la base du judaïsme. C'est un concept très important, certes, c'est très important de se rappeler qu'il y a un Dieu, et que je peux rien changer en Dieu, et que c'est mon ego, je dois écraser l'ego. Mais ça n'explique toujours pas en quoi ce commandement est tellement important, au point qu'il est la base et l'origine de toutes les mitzvot. Quel rapport ? Par exemple, j'ai mis les tefilin. Quel rapport entre les tefilin et le fait qu'il y a un Dieu ? Il n'y a pas de rapport. Quel rapport entre les tefilin et casser mon ego ? Il n'y a pas de rapport. Quel rapport ? Toutes les mitzvot tournent autour de ça ? Donc il faut pousser plus loin. On a une première piste. Le bitoul, l'annulation. Oui, mais là, pour l'instant, ça veut dire comme ça. On a déjà un élément de réponse. Vous me suivez ? On a déjà un élément de réponse. Et c'est un élément de réponse Razak qui nous a trouvé, notre ami, d'accord ? Élie.
Ah, il l'a pas fait exprès. Hein.
Ah, merde, ouais,
c'est à côté de moi.
Allez, Amir.
Je suis KO.
Mais on a ici une piste très importante. Mais c'est pas tout. On te dit pourquoi c'est important de rappeler que Dieu est un, d'accord ? C'est pour te dire qu'il ne bouge pas. Vous savez, c'est comme... comment on dit ? Vous savez, regardez. On dit, c'est comme quand on dit une personne. Oula. Ça va
papier, voilà. papier,
tiens. Vous savez, comme en français, comment on dit qu'une personne, les événements qui arrivent ne l'affectent pas ? On dit que ce monsieur, il reste égal à lui-même. Ça veut dire quoi être égal ou bien indifférent ? C'est quoi la définition ?
Hein ?
Indifférent, égal à lui-même. D'où ça vient ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut te montrer que ce qui s'est passé n'a pas d'effet sur lui.
Donc Dieu n'a pas consommé d'énergie ou de son énergie.
Voilà. Dieu n'a pas consommé d'énergie. Et ce que les hommes vont faire n'a pas d'effet sur Dieu. Maintenant.
Un peu quand même.
Alors attendez, justement. Ça, le problème, c'est que non seulement que ça m'aide pas, mais ça m'enfonce. Pourquoi ça m'enfonce? Parce que tu es en train de me dire que le premier commandement qui me rappelle, Rabotaï, que Dieu est un, ça veut dire qu'il est indifférent. Eh ben, ce commandement-là, il a passé tous les commandements. Mais je comprends pas. Si tu me dis que c'est un commandement, ça veut dire que Dieu m'a donné un ordre.
C'est mon livre.
S'il m'a donné un ordre, c'est qu'il a besoin de quelque chose.
Ah, David, c'est l'aime.
Vous me suivez ?
C'est pas
vous me suivez plus, vous êtes avec moi.
On doit voir.
David, t'es avec moi ou pas ? T'as les chamelles, suis ?
J'essaie de voir où tu veux en venir, mais...
Ah ben, c'est très simple. moi, je suis bloqué, il y a un problème, là. Regarde. On a posé une question, je reprends. On va reprendre le fil. On va pas trop développer aujourd'hui, on va juste commencer. On a posé une question. Et cette question-là va nous accompagner pendant deux chapitres. Alors, c'est très facile parce qu'il y a une question, c'est un fil conducteur. On a posé une question, on a dit pourquoi c'est important de rappeler qu'il y a un Dieu et pas deux dieux. Est-ce que quelqu'un pense qu'il y a deux dieux? On a commencé à donner un élément de réponse. On a dit si. Quand on dit qu'il y a un Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Dieu, il est toujours indifférent. Et que la création du monde n'a rien changé en lui. Et que moi, je peux rien changer en lui. Alors, certes, c'est un élément très important parce que ça casse mon ego. Je me dis, finalement, c'est pas moi qui rends un service à Dieu, c'est Dieu qui m'a rendu un service. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, comment on peut dire que ça, c'est la base des commandements ? Quand on dit qu'un général, il donne des commandements, c'est que le général, il a besoin du retour des commandements. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de notre retour ? Donc là, ça nous amène à une autre question. Alors, dans ce cas-là, j'ai une question très simple. Très bien. Vous dites, Dieu n'a pas besoin de notre retour. Alors, Yves. Si Dieu n'a pas besoin de notre retour, pourquoi il a donné ses commandements ? Ça sert à qui ?
On veut gagner le...
Non, attendez. Ne parle pas de toi, parle de Dieu.
Mais on peut se dire que ça
Dieu,
sert
à lui.
Ah, pourquoi il t'a créé ? À quoi tu sers ? Mais pourquoi il t'a créé ? Parce que là, t'es en train de me dire que toutes les façons, t'es indifférent, tu vois. C'est du style, tu sais à quoi ça ressemble ? Le bonhomme, il est là. il passe un temps fou à créer un moteur et tout. Tu vois, de toute façon, je suis indifférent. Ah, je m'en fiche. Il est nul, ce moteur. Ah, pourquoi tu l'as créé?
Rien d'autre à faire que les commandes.
Pourquoi tu l'as créé, ce moteur, si t'es indifférent, si tu fais rien?
Il l'a créé pour que tu puisses avoir appliqué.
J'ai pas la réponse.
Demandé.
Quoi?
Parce que la force de voir le vecteur, c'est comme la vacillation de son existence sur Terre et au quotidien.
D'accord. Et si je vais à la mitzvah, je le dérange?
Tu le déranges pas. Quoi, tu le déranges pas? D'une certaine manière, si, bah, parce que il y a une influence, puisqu'on dit que les pleurs d'une veuve le
et en plus, je vais vous dire plus que ça. Qu'est-ce qu'il dit le troisième commandement? Troisième commandement, je vais pas chercher loin. C'est comme il dit, ton Dieu est un Dieu jaloux.
Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Mais tu me dis de me dire qu'il est indifférent.
Non, je sais pas qu'il est indifférent.
Non, on a dit que ça ne changerait pas.
Non, non.
Après, il est jaloux alors. Si je suis jaloux, c'est quelque chose qui me dérange. Quand je suis indifférent, je suis pas jaloux.
On prend le parallèle toujours que c'est on le compare à un père et nous ses enfants.
Un père, il n'est pas jaloux de ses enfants?
Non, il a pas de jaloux.
Alors pourquoi Dieu dit qu'on dit que Dieu est jaloux?
Non, non, dans le fait d'aller voir d'autres dieux, c'est ça.
Donc ça veut dire que ça le dérange?
Non,
si ça le dérange, je ne sais pas.
Alors tout à l'heure, on a dit que ça ne dérangeait pas.
Alors voilà, on est bloqué là.
Alors, mais d'un autre côté, puisque rien ne le dérange, pourquoi a-t-il besoin que je fasse ces mitzvot? Ça peut lui apporter.
Exactement, bien vu. Voilà, M. Benita. Voilà. Ça, c'est un chapitre pour vous. Le chapitre 20, il est pour vous là.
Ah oui.
Vous avez vu, M. Benita là?
Tous les chapitres, ils ont été
là, j'ai tout remis en cause là.
Mais qui c'est qui a dit?
C'est bien. C'est intéressant.
Tu nous dis qu'il y a un différent après
tout. J'ai raison. D'accord. Donc peut-être que c'est pas une bonne piste. Peut-être.
Le fait de dire qu'il y a quelqu'un différent, il y a aussi un surplus.
Alors, on le dit tous les matins dans la tfila, dans la tfila de Shacharit, on le dit Atehu Atahu Atchelo Nivra Aolam. Il le mentionne ici Atahu Mishenivra Aolam. Je répète dans la traduction. Toi, tu es le même Dieu avant que le monde ait été créé. Toi, tu es le même Dieu après que le monde ait été créé. T'es le même Dieu. On le dit tous les matins pour ceux qui disent ce qui est avant la tfila, ce qui est avant Oudou. D'accord? Ça veut dire quoi? De quoi on veut parler ici? Atahu atchelo nivra olam, atahu mishinivra olam. Atahu, tu es le même, t'as pas changé. Adon olam asher malach, beteram kol et tournivra. Ça, c'est un grand chidouche. On dit que Adon olam, le maître du monde, asher malach, qui a régné, beteram kol et tournivra avant qu'aucune créature soit créée. Mais il a régné sur qui alors?
On sait pas.
D'accord, on sait pas. Pour régner, il faut des sujets.
Pas
ça veut dire, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que Dieu, mais c'est ça la complexité, il n'a pas besoin de sujet pour régner. Ce qu'un homme est incapable de comprendre. Parce que même le plus grand roi au monde, il a besoin de sujet. C'est comme si un homme, il est chez lui à la maison, il dit chez le roi du monde. Même sa femme, il règne pas. Qu'est-ce qu'il va régner? D'accord?
Pourquoi il s'est tenté là?
Tu parles d'interaction.
À nous faire sortir d'Égypte avec les miracles, etc., s'il n'a pas besoin de sujet.
Alors voilà, c'est ce qu'on dit. On dit Adon Olam, Asher Malab, Eterem Kol Eterem Nivra.
Mais bon, comment une entreprise n'a pas besoin de clients? Il a besoin de clients.
Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Imlor, Olam Vaed. Dieu a régné avant la création du monde. Il règne depuis que le monde a été créé et il régnera à jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est un roi qui n'a pas besoin de sujet pour régner. Donc, là, je reprends dans cette piste.
S'il n'a pas de sujet, sur qui va-t-il régner?
Parce qu'Abraham, il a posé la question, il a dit où c'est écrit, c'est une mauvaise piste. C'est pas une mauvaise piste, ça, parce que c'est une piste qui est créée.
S'il n'a pas de sujet.
Bonne question.
Tu provoques.
Donc, ça veut dire que Dieu a besoin de nous.
Ah, voilà.
Donc, Dieu a besoin de Charles Benita.
Non, pas seulement.
Est-ce que Dieu pourrait se passer de Charles Benita?
Pas du tout.
Sinon, on n'y arrive pas, comment voulez-vous?
Répondez à ma question, regardez-moi dans les yeux.
Ah, là, c'est qui je suis, moi.
Benita, qui vous a créé?
Est-ce que le monde pourrait se passer de Charles Benita?
Est-ce que votre femme...
Mais non, on peut pas se passer, nous. Nous, en tout cas, on peut pas se passer.
C'est un grand pas.
Ah, mais ça serait pire que ça, même dit. Ça serait offensif.
Avec vous, j'ai l'air,
c'est Dieu qui l'a créé. Se passer.
D'accord. Alors, dans les mots. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Pour l'instant, on laisse la question en suspens. Mais on a déjà un élément de réponse. D'accord. On a déjà un élément de réponse.
Ne faites pas ça, Shabbat, le commentaire de ça, Shabbat.
Non.
Je serai pas là.
On continue lundi prochain. Et c'est enregistré.
D'accord. On fait la suite.
Ah oui. Voilà. Mais en tout cas, voilà.
Il a répondu à votre question. Il a dit, est-ce qu'on peut se passer de Charles Benita?
Ah ouais.
Même Shabbat,
vous allez pas.
Moi, je peux pas m'en passer. Mais Dieu
peut se passer. Tout le monde peut se passer.
Vous savez d'ailleurs, ce que je vous dis, ici, c'est le discours de Job.
Oui.
Job, il dit comme ça à Dieu. Il dit, si une personne a fait une mitzvah, qu'est-ce qui t'a apporté? Et s'il a fait une avora, qu'est-ce qui t'a enlevé? Alors qu'est-ce que ça te dérange? Pourquoi Dieu dit ça me dérange quand tu fais une avora? C'est quoi le problème? Donc, je reviens. On a dit que les deux premiers commandements, apparemment, sont des commandements capitaux. D'accord ? C'est les commandements les plus importants. Pourquoi ? Parce que, un, c'est la base des mitzvot positives, l'autre, c'est la base des mitzvot négatives. C'est quoi les commandements ? Je suis l'éternel ton Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas d'autre Dieu ? Là, on est parti dans une piste, on a dit, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est dans le sens qu'il est égal à lui-même et donc il est indifférent, dans le bon sens. Ça veut dire que le monde ne change rien en lui. Alors, dans ce cas-là, je repose ma question. J'ai mis dans ce cas-là, qu'est-ce que change le mitzvot à Kadosh Baruch Hu ? À quoi ça sert pour y être mitzvot ? Donc, ce qu'on va devoir expliquer, je vous donne juste un preview de ce qu'on va expliquer la semaine prochaine. Ce qu'on va expliquer la semaine prochaine.
Ouais, tu parles de la fin.
D'accord ? La piste. Je vous donne la piste la semaine prochaine. Je ne vais pas vous laisser que sur la fin, quand même, entièrement. La piste qu'on va développer la semaine prochaine, on va dire qu'en vérité, c'est pas qu'on s'est planté, mais c'est qu'en vérité, Echad veut dire encore autre chose. Echad ne veut pas dire que Dieu est un. Echad veut exprimer l'unicité d'Akadosh Baruch Hu et l'unicité du monde. Ça veut dire quoi ? Quand on dit Shema Israël, Shem Elokeinu Hashem Echad, ça veut dire qu'on doit arriver à la conclusion que le monde entier forme un seul élément qui s'appelle Dieu. Ça veut dire, vous, lui, la table, moi, tout ce qu'il y a autour de nous, mes pensées, mes bêtises, mes mitzvot, mes averot, tout ça fait partie d'un seul élément qui s'appelle Dieu. Mais ça, c'est très très compliqué, ça. Très compliqué, et on va devoir bien le développer, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que vaut mon libre arbitre ? On va traiter une notion très importante la semaine prochaine. Qu'est-ce que vaut mon libre arbitre ? Puisque tu me dis qu'apparemment, on fait tous partie d'un élément qui s'appelle Dieu. Et que quand on dit que Echad, c'est pas seulement qu'il y a un Dieu, c'est que toute l'humanité, toute la planète, tout ça, ça fait partie d'un seul élément qui s'appelle Dieu. Alors, quand moi, je décide de faire quelque chose, finalement, j'ai rien décidé puisque je fais partie de Dieu.
Alors, comment on peut ne pas être éternel et faire partie de Dieu ?
Ah, voilà. Bonne question. Comment ça marche ? Non, réponse la prochaine.
Le gouf, il est pas éternel.
Ah, on verra la semaine
prochaine.
D'accord. La semaine prochaine. Ok ? On s'arrête là pour aujourd'hui.